chère Camille, j'ai décidé d'écrire une nouvelle œuvre que je connais très bien pour la simple raison que j'ai été médiatrice pour l'exposition pendant laquelle elle a été montrée. Et c'est une œuvre que j'ai en tête depuis le début, aussi bien du projet des esquisses que de cette correspondance que nous entretenons. C'est une pièce qui comporte une grande partie sensorielle et qui du coup fait partie de ces œuvres pour lesquelles existe une documentation photographique et qui ne rend absolument pas compte de l'expérience qu'on fait en tant que spectateur. Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que donc il existe des photos où on voit l'œuvre très très bien, mais on la voit éclairée alors qu'elle se découvrait dans le noir presque absolu. Donc forcément, ça change profondément la vision qu'on en a, et puis ça explique aussi évidemment pourquoi c'était très difficile d'en avoir une documentation photographique. Donc cette œuvre, ça s'appelle Métamorphose d'Impact 2, et c'est les frères Chapuisat qui l'ont réalisé au LIFE l'été 2012. Donc j'étais médiatrice pendant 3 mois dans cette exposition, il n'y avait que cette pièce-là qui était exposée. Le LIFE, c'est une ancienne base sous-marine en fait, je ne sais pas si tu vois à Saint-Nazaire cette construction monstrueuse qu'est cette base sous-marine. Et dans une des alvéoles, il y a donc le LIFE qui est donc un centre d'art, enfin une salle d'exposition, mais qui peut servir aussi à des concerts, qui est très très vaste. Hein, je dis c'est une alvéole dans... il y en a 15, je crois, des alvéoles au total. Une alvéole reste quand même déjà assez gigantesque. Et j'ai donc travaillé pendant 3 mois à l'accueil de cette installation-là. Ça m'intéresse de te parler de cette pièce parce que du coup, en effet, c'est une expérience sensorielle lorsqu'on la découvre en tant que spectateur. J'ai fait cette expérience tout au début de ma prise de poste, sauf qu'elle est forcément complètement biaisée par le fait que j'ai appréhendé cette œuvre pendant 3 mois, que j'ai passé de longues heures dans le noir absolu à l'intérieur, et que j'ai dû donner les consignes de sécurité aux spectateurs aussi. Parce que évidemment, quand on rentre dans le noir, ça nous déconcerte quand même très très fortement. On perd tous les repères spatiaux autour de nous. Et ce n'est pas simple de... Enfin, on est envahi par des angoisses assez rapidement en étant comme ça dans une salle dont on ne sait absolument pas quelle taille elle fait. On ne sait pas s'il y a des obstacles devant nous. Donc notre accueil était très important. On accueillait beaucoup de gens par jour, il y avait quand même les gens calmes, il y avait une centaine de personnes et les jours plus animés, on pouvait aller jusqu'à 1000 personnes par jour. Donc on répétait, nous en tant que médiatrices, on répétait les mêmes phrases à chaque arrivée de spectateurs ou de groupes de spectateurs. C'est d'ailleurs devenu une blague entre nous pour essayer de changer ce discours qui devenait comme un automatisme pour nous au bout d'un moment. Donc voilà ce qu'on leur disait. On disait bonjour, on les accueillait, on leur expliquait, voilà, vous allez pénétrer dans une salle qui plongeait dans une obscurité quasi totale. Vos yeux vont mettre du temps à s'habituer à cette obscurité. En moyenne, ça dure 10 minutes. Et 10 minutes dans le noir absolu, ça paraît être un petit peu long quand même, donc il faut être patient. Vous allez voir quelque chose, vous pouvez avancer dans la salle pendant que vos yeux s'habituent, mais pensez à bien mettre les mains devant vous, devant votre tête, afin de vous protéger et de ne pas rentrer en collision avec l'œuvre. Donc on leur donnait ces consignes-là. On leur disait évidemment aussi de ne pas prendre de photos avec le flash. Et puis on les laissait s'aventurer dans la salle selon le rythme qu'ils avaient envie d'adopter. En général, les gens avançaient quand même très lentement. Lorsqu'on avançait dans cette salle, donc avec les mains donc devant notre visage, parce qu'on nous avait dit qu'on allait peut-être se cogner contre l'œuvre, donc forcément on a un petit peu peur, on n'est pas rassuré. On est enveloppé par une obscurité qui devient totale au moment où nous, les médiatrices, on ressortait avec notre lampe torche avec laquelle on a accompagné les gens jusque dans le premier sas. On commence à distinguer au début les petites lampiotes des issues de secours. Donc il y a à peu près, je crois, 4 ou 5 issues de secours par côté de salle, donc ce qui fait une dizaine au total dans toute la salle. Donc voilà, on commence à apercevoir ces petites lampiotes, donc on commence à se douter un peu de la taille de la salle. Il doit avoir une bonne trentaine de mètres de long, peut-être une quinzaine, une vingtaine de large. Donc on avance et puis tout d'un coup, en effet, en général, les gens, ils arrivaient en groupe, donc soit on était le premier dans le groupe à toucher l'œuvre, à rentrer donc en collision douce avec la pièce. Et donc ce qu'on touchait, c'était des surfaces lisses, c'était relié entre elles avec des angles soit qui rentraient, soit des angles qui sortaient, qui avaient des degrés variables. Et les gens, ils baladaient leurs mains donc sur ces surfaces en les tâtant, devinaient que c'était en bois parce qu'il y avait la texture du bois. Les angles étaient très très bien faits, les gens pouvaient se faire mal, ceux qui allaient trop franco. On a quelques blessés quand même dans cette exposition. Voilà, donc on découvre comme ça ce volume qui se trouve donc à peu près à hauteur de notre visage. On tâte le long de ces surfaces dont on arrive assez rapidement aux extrémités, qui sont reliées à d'autres surfaces. Ça descend, ça monte, ça va sur tous les côtés. On essaie de tâter comme ça l'extrémité de ce volume, mais à chaque fois on tombe sur de nouvelles surfaces qui se déploient à travers l'espace. Donc on se doute que c'est une sculpture assez importante qu'on a devant nous. C'est aussi en général à ce moment-là qu'on commence légèrement à apercevoir les arêtes du volume. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont donc finalement... Donc moi j'ai dit l'obscurité quasi totale, et ce qui est vrai au moment où on pénètre donc à l'intérieur, en général on venait de l'extérieur, c'était l'été, il faisait beau. Donc là, en effet, l'obscurité est totale. Et en fait, ce qui éclaire la salle, ce sont donc ces blocs des issues de secours et qui donnent un éclairage suffisant pour que, petit à petit, cette structure se révèle à nous. Donc on commence au moment où on commence à toucher. Alors je pense que le toucher, il doit aider aussi à peut-être commencer à visualiser les choses. On visualise mentalement et après les yeux, peut-être, enfin, ou plutôt notre cerveau, arrive à mieux interpréter les peu de signaux que les yeux nous donnent. Voilà, donc on commence à voir les arêtes, on commence à, en effet, à se rendre compte que ça continue au-dessus de notre tête, ce qu'on pensait peut-être encore être fini à un moment donné. On commence à apercevoir aussi une petite lueur par terre. On se rend compte que cette sculpture, elle va finalement quasi jusqu'au sol, au centre de cette grande salle qu'est cet alvéole de la base sous-marine. Et en général, on est attiré par cette lueur au sol. Donc souvent, les gens, ils commencent à apercevoir donc, ce volume qui se compose de plusieurs plans en bois inclinés qui sont reliés les uns aux autres. Il y a une première impression de forme un peu minérale et en même temps assez virtuel en fait qui dégage, donc ça a vraiment l'air au début, surtout quand on voit les arêtes apparaître petit à petit avec cette petite lueur qui a quelque chose d'un peu verdâtre. Il y a quelque chose de très synthétique qui se dégage, comme s'il s'agissait d'une modélisation 3D sur ordinateur en fait. Et donc cette lueur au sol qui vient donc d'au-dessus, elle nous attire en tant que spectateur forcément, donc en fait on essaye de s'en rapprocher. Donc là on doit se baisser parce qu'en effet le volume il descend jusqu'à 50 cm au-dessus du sol à ce niveau-là. On se baisse et là on se rend compte en se baissant, en regardant en dessous de cette sculpture, qu'il y a une entrée, il y a une ouverture. Il y a une ouverture dans laquelle on peut se glisser. Et donc on doit se mettre accroupi, à quatre pattes. On peut se mettre en dessous de la sculpture, on peut se mettre debout, à l'intérieur de ce volume qu'on découvrait à tâtons dans le noir. Et donc à l'intérieur, il se donne une image qui est complètement différente de ce qu'on attendait, parce qu'on s'attendait forcément à pouvoir apercevoir toute l'étendue de l'œuvre via son intériorité. Et en fait, pas du tout, on est dans une sorte de capsule dorée, un dôme qui est plus grand que nous, mais voilà, qui reste à taille relativement humaine. Et à l'intérieur duquel donc, il se trouve un revêtement en couverture de survie, donc dorée, et des lumières qui s'allument au moment où je franchis, où je passe ma tête par cette ouverture. C'est là aussi, ça c'est autre chose dont je ne t'ai pas parlé encore, Camille, c'est qu'il y a un autre élément sensoriel à cette pièce qui rajoute beaucoup à l'angoisse qu'on ressent au début dans le noir, c'est qu'il y a une dimension sonore dans cette pièce. Une dimension sonore qui est une expérience particulière aussi, puisqu'il s'agit d'un son, d'un enregistrement en infrabasse en fait, qui est diffusé. Et c'est là, c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est parce que c'est diffusé de l'intérieur de la pièce et audible évidemment à l'extérieur, mais au moment où je pénètre donc dans cette sphère, dans ce cocon doré à l'intérieur de cette sculpture plutôt froide de l'extérieur, chaude à l'intérieur, je me rends compte qu'à l'intérieur ce son est beaucoup plus fort, je suis presque comme au cœur de ce monstre en fait, parce que tout d'un coup il y a quelque chose d'assez organique qui s'en dégage, et ces sons qui sont donc des sons qui vibrent, qui font vibrer l'intérieur de notre corps, qui sont très audibles mais qui sont à variation, qui sont avec des variations, c'est pas un son continu du tout. Et donc je me rends compte que ça émane de l'intérieur, donc on a l'impression d'être vraiment à l'intérieur d'une bête qui grogne, qui ronronne peut-être, hein, obligé de le voir que de manière négative. Et au moment où je ressors donc de cette cavité, je me rends compte que la lumière réagit à ma présence parce qu'elle rediminue au moment où je ressors. Donc je dois à nouveau m'accroupir et là, bizarrement, et ça, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui nous l'ont décrit. Moi, j'arrive absolument pas à me rappeler si c'était le cas quand moi, j'ai fait la première fois l'expérience de cette œuvre. Mais lorsqu'on sort, en fait, toute notre vision, elle est teintée un peu par effet de contraste, en fait, de couleurs primaires, d'opposition, là, comme l'intérieur est un peu doré, orangé, en sortant, on voit tout un peu en bleuté ou verdâtre. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait la pièce est gigantesque. Parce qu'en fait, beaucoup de gens nous ont décrit ça, et c'est assez curieux, c'est qu'en ressortant de l'intérieur, notre vision a fini par s'adapter à cette pénombre, et tout d'un coup, se rend compte de l'ensemble de la pièce, qui est accentué évidemment par le fait que donc on doit se remettre à quatre pattes pour donc vraiment sortir d'en dessous le volume, et on a le réflexe donc de regarder quand est-ce que je peux me relever. Les gens en général mettent aussi la main pour s'aider à éviter de se cogner encore une fois, et là se rendre compte qu'en fait ce volume composé donc de plusieurs surfaces est quasiment infini en fait, et va jusqu'à plusieurs mètres de haut, s'étend. Donc moi je connais les dimensions, c'est là qu'il y a de nouveau ma déformation professionnelle en tant que médiatrice qui intervient. Donc en effet, cette œuvre s'étendait sur une, je crois que c'était 27 mètres de long et 12 mètres de large. Donc quasiment, en fait, la pièce, elle est suspendue au plafond de cet alvéole, de la base sous-marine, avec une grosse charpente sur laquelle est donc construite cette forme en bois. Et donc, elle occupe quasiment la totalité de la surface de plafond de l'alvéole. Donc, c'est gigantesque, en fait. Ça pèse très lourd aussi, ça pèse 30 tonnes. C'était une pièce qui était possible de faire... Comme je t'avais dit au début, elle s'appelle Métamorphose d'Impact 2. Donc, si laisse présupposer qu'il y en avait une première. Et en effet, il y en avait une première qui a été montrée, si je ne me trompe pas, au CNAI à Paris. Et en fait, là-bas, c'était possible. Elle était beaucoup plus petite, évidemment, lors de sa première exposition, dans sa première version. Je ne saurais pas te dire des dimensions parce que je n'étais pas médiatrice sur cette exposition-là. Elle était beaucoup plus petite, mais c'était possible de la suspendre au plafond parce que, si je dis pas de bêtises, mais c'est comme ça que c'est dans mes souvenirs, cette salle d'expo se trouve sous une route et du coup a un plafond qui est évidemment très renforcé, très épais pour pouvoir porter le poids de la route au-dessus et des voitures qui circulent. Et donc voilà, il y avait la possibilité de suspendre quelque chose de relativement lourd au plafond. Et à la base sous-marine, bah, c'est pareil. Cette base sous-marine, elle a été construite par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Nazaire. Il y en a d'autres, il y en a à La Rochelle, il y en a à Lorient. Elle a été construite pour ne jamais être détruite, ce qui d'ailleurs a été le cas. Saint-Nazaire a été très très bombardé à la fin de la guerre. Il y avait 85% de la ville qui avait été détruite, sauf cette base sous-marine qui était au départ la raison pour laquelle on bombardait Saint-Nazaire. Raison pour laquelle elle fut d'ailleurs coupée de la ville pendant très longtemps. Évidemment, à la reconstruction, les gens ils n'avaient qu'une envie, c'était de ne plus voir cette base sous-marine qui aujourd'hui est réannexée à la ville comme centre... déjà touristique et puis culturel. Donc il y a aussi une salle de concert, il y a une reconstruction d'un gros paquebot qu'on peut visiter en tant que touriste, voilà. Donc en fait voilà le plafond de cette base sous-marine, alors je sais plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était le toit il fait genre 7 mètres, il est en béton armé, donc pour le coup on pouvait se lâcher, on pouvait suspendre cette énorme structure qui pesait donc environ 30 tonnes au plafond de cette base sous-marine. Alors cette suspension de cette pièce, elle crée évidemment, même au moment où on découvre donc l'étendue totale de l'installation, on a évidemment un sentiment d'écrasement. C'est au-dessus de notre tête, on n'est tout de suite pas rassuré, on n'a pas l'habitude de voir d'aussi grands volumes se déployer au-dessus de notre tête. Et cette sensation-là, cette situation corporelle et physique que ça crée, déclenchait toutes sortes d'interprétations et de lectures chez les gens. Et ça, c'était, voilà, nous on récoltait évidemment tous ces témoignages-là en tant que médiateurs. Il y avait cette impression d'être en dessous d'un bateau. Que c'était une sorte de coque de bateau, certes modélisée de manière un peu particulière. Il y avait ce rapport au ventre de la bête aussi, qu'on voyait d'en dessous. Et toujours cette idée un peu de nous petits humains écrasés par quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est angoissant. Et cette position-là aussi donnait très vite une impression d'être comme sous l'eau. Je pense que cette lumière, quand même finalement plutôt verdâtre et assez faible, doit aussi rappeler peut-être une ambiance un peu sous-marine aux gens. Je pense aussi que le contexte finalement de Saint-Nazaire doit jouer beaucoup, beaucoup évidemment un sous-marin. On est dans la base sous-marine, il y a un sous-marin à visiter en face dans une autre partie du port. Les gens y voyaient cette espèce de bête du sous-marin vue d'en dessous, la baleine des fois aussi, le dessous d'une île aussi. Donc on avait beaucoup cette idée du volcan renversé, de la montagne renversée. Le volcan évidemment à cause de cette cavité à l'intérieur qui est lumineuse, qui est chaude, qui dégage un peu comme une sorte de lueur, un peu semblable comme le magma. Et donc voilà, ça déclenchait toutes sortes d'interprétations figuratives et narratives en fait. Comment est-ce que ce bateau, cette baleine, ça serait échoué sur le toit de la base sous-marine voilà. Et donc aussi le son forcément contribuait, ce son d'infrabasse donc qui vibrait en nous, donnait une impression de moteur pour beaucoup de gens, un moteur de bateau, enfin sa propulsion quoi, qui le fait avancer. Et en fait ce son était en fait une composition, enfin c'est donc une composition sonore que les frères Chapuisat et qu'ils ont fait en collaboration avec un artiste du son dont malheureusement le nom m'échappe. Et en fait il s'agit, alors j'ai un peu oublié les détails, mais il me semble que c'est genre une transposition de si on trace une ligne droite entre je sais plus, je crois que c'était une ville en Italie et une ville en Suisse. Les noms des villes m'échappent, je m'excuse Camille. Donc en fait, voilà, l'artiste a tracé une ligne droite entre deux villes, l'une en Italie et l'autre en Suisse. Et en fait, prenait après les relevés topographiques de cette ligne qui passe par-dessus les Alpes. Et donc il a interprété cette courbe que ça génère comme une courbe sonore. Et c'est ça en fait, et en le mettant avec des infrabasses qui donnent, donc c'est ça les variations d'intensité du son, ça correspond au haut et au bas de cette ligne tracée par-dessus les Alpes. Donc il y a ce rapport à la montagne, ce rapport au voyage, il y a ce rapport au minéral, à la peur, voyage initiatique presque aussi, qu'on retrouve là-dedans. Et alors voilà, donc c'était 3 mois passés à côtoyer cette bête, d'ailleurs avec les artistes, c'était comme ça qu'on l'appelait, la bête. On passait évidemment beaucoup de temps, comme je disais, à répéter la même phrase à l'accueil des publics. On passait aussi beaucoup de temps à l'intérieur. Donc on devenait un peu des vampires où on voyait très très bien finalement à l'intérieur. Comme je te disais, au bout d'un moment, quand les yeux se sont habitués, on est dans une pénombre où on aperçoit toute la structure en bois qui est suspendue du plafond. Et on observe les gens évidemment aussi tâtonner dans le noir, donc il y a quelque chose d'assez marrant à ça aussi. On se fait un peu guide d'aveugle aussi, parce qu'en fait, ce que moi j'ai appris aussi là-bas, ce que je ne savais pas avant, les gens qui sont claustrophobiques, eh bien ils peuvent pas avancer dans le noir. Donc on avait beau leur dire que la salle était gigantesque, c'était impossible pour eux de... Ils avaient l'impression que l'espace refermait sur eux, donc une espèce de sensation corporelle comme ça qui est complètement biaisée, complètement faussée. Et donc voilà, on accompagnait, on se faisait un petit peu chien d'aveugle à l'intérieur de cet espace. Et voilà, et on avait beaucoup de discussions aussi autour de l'accessibilité. Parce que du coup, forcément, il y avait des gens qui étaient claustrophobes, qui ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur, des enfants aussi qui avaient très peur. Et donc, on se voyait quand même régulièrement reprocher ce fait-là. Aussi, le fait que pour découvrir l'intérieur de cette montagne renversée, il fallait se mettre à quatre pattes, en fait. Donc, les gens en fauteuil ou même juste un peu voilà, moins flexible de leur corps et des genoux, ben pour eux, cet intérieur-là devenait inaccessible. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on nous avait beaucoup, enfin qu'on a reproché via notre biais. Évidemment, quand on est médiatrice, on se prend toujours un petit peu tout pour nous, alors que c'est adressé aux artistes. Mais c'est quelque chose que les artistes assument, donc cette accessibilité partielle, en fait, de l'œuvre, parce qu'en effet il faut en effet se mettre à quatre pattes, mais c'est pas, comment dire, dans cette frustration il y a aussi quelque chose qui se dégage. Ça nous parle aussi de voilà, de situations dans la société où il y a des privilégiés et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Nous on a expliqué aux gens évidemment que l'intérieur n'était pas du tout forcément le plus impressionnant, au contraire. enfin moi personnellement, et j'étais pas la seule à le penser, je trouvais que ça faisait un tout petit peu, presque un peu gadget quoi, ça c'est mignon, c'est joli, ça c'est clair, mais je trouvais beaucoup plus intéressant finalement cette découverte lente du volume extérieur que la découverte de cet intérieur. Bon voilà, les enfants ils aimaient forcément toujours beaucoup, waouh ça brille, puis l'idée du cocon, de la cabane, qui est forcément quelque chose qu'on a instinctivement tout un chacun en nous. Donc il y avait toutes ces discussions de l'accessibilité et aussi moi ce que j'ai trouvé intéressant dans cette pièce c'est que c'est une œuvre qui est enfin malgré cette accessibilité physique peut-être un petit peu réduite pour certains, je trouve que c'est une pièce qui est quand même relativement accessible à un grand public. Presque même jouant, peut-être un peu spectaculaire en effet aussi, hein, un peu Disneyland, ça s'inscrivait quand même dans le voyage à Nantes aussi. Et par contre, ce que je trouvais chouette, c'est qu'il fallait quand même se prendre le temps, il fallait quand même faire une démarche qui était celle de prendre la patience, d'avancer dans le noir, de tâtonner un peu dans quelque chose qu'on ne connaît pas, de faire confiance à ce que la médiatrice nous a expliqué, à nos sens aussi. Réactiver l'écoute et le toucher, notre orientation spatiale plutôt que le seul regard au début, et je pense que c'est un peu, on peut le transposer à d'autres œuvres qui ne se livrent pas forcément tout de suite à nous, où il faut peut-être faire la démarche de s'informer un peu sur qui est l'artiste, quelle est son histoire, quelle est l'histoire derrière la pièce, ce que c'est une anecdote ou un fait d'actualité qui l'a engendré. Et il faut faire un certain effort en fait en tant que spectateur. Tout ne se livre pas directement à nous. Et je trouve que cette pièce-là en était une assez chouette métaphore. Et donc aujourd'hui, tu peux trouver des images de cette pièce, mais tu trouveras donc que des photos, enfin une documentation photographique avec la salle éclairée. Donc tu verras le volume que c'est, mais tu ne pourras absolument pas refaire cette expérience-là. Et l'œuvre a été forcément démontée à la fin de cette exposition. Tu imagines qu'elle est totalement intransportable ni transposable dans une autre salle. Donc elle n'existe plus aujourd'hui, a un caractère éphémère. Elle pourra revoir le jour ailleurs, mais ce sera forcément sous une autre forme, d'une autre taille. Et c'est assez récurrent dans le travail des frères Chapuisat de faire comme ça des pièces in situ qui existent pour un lieu donné, qui font souvent, qui jouent avec cette idée d'une accessibilité à la fois très grande parce que c'est ludique, c'est sensoriel, ça fait appel à notre enfance, à la cabane, à la construction, à l'imaginaire beaucoup, au jeu de piste. Et en même temps, voilà, qui joue toujours avec une certaine inaccessibilité certaine aussi. Donc j'espère que tu as pu te faire une image de cette pièce en m'écoutant. À très bientôt, Camille.